Voilà, vous êtes toujours sur Radio Larzac. On est en direct depuis le marché de Millau dans notre caravane studio. Et nous recevons à présent Daniel Goud, bonjour.
Bonjour.
Et Anne-Marie Latrémolière, bonjour.
Bonjour.
Donc, tous les deux membres du comité de rédaction de La Main Chaude, donc l'association pour la promotion de l'histoire sociale millavoise. Et voilà, le printemps revient, le mois de mai ne tarde pas à arriver. Et donc, comme à l'accoutumée, vous allez sortir votre troisième numéro de cette superbe revue La Main Chaude.
Alors, le 1er mai.
Voilà, le 1er mai. C'est maintenant une tradition en quelque sorte. Alors oui. après la grève des Gantiers de 1911, après les cabanières de Roquefort, vous nous proposez un sommaire qui est très diversifié, j'ai trouvé.
Oui. Ouais. Alors peut-être on peut peut-être rappeler un petit peu en deux mots ce qu'est l'association pour la promotion de l'histoire sociale de Millau qui s'est créée en 2011 avec la publication d'un livre sur la grève des Gantiers de 1911. Donc voilà, ça faisait un siècle.
Un centenaire, oui.
Voilà, donc, et l'association s'est créée à cette issue. Et il y a eu d'autres publications. Et puis en 2015, on s'est dit que ce serait bien de faire une revue, qu'on ait un rendez-vous annuel avec nos lecteurs. Et donc, c'est comme ça qu'en 2015 a été créée La Main Chaude.
Et comment s'est constitué votre groupe, en fait, votre association, les personnes qui sont dans le comité de rédaction, comment
c'est des gens qui se connaissaient, des amis, des militants, des gens passionnés d'histoire, d'histoire sociale, bien entendu, d'histoire sociale locale. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et...
Il n'y a pas que des historiens, donc.
Non, il n'y a pas vraiment de, il y a pas d'historiens, il n'y a pas d'universitaires, des spécialistes de l'histoire. C'est des gens qui, c'est des passionnés qui vont dans les aux archives départementales, aux archives municipales, et puis des gens aussi un peu collectionneurs qui ont beaucoup d'archives personnelles sur Millau. Et voilà, et les gens se sont dit, oh, regarde, moi j'ai telle photo, j'ai tel document, c'est intéressant. Et ce serait peut-être intéressant d'en faire partager tout le monde, voilà.
Alors, partager avec aussi, tout le monde. Ça explique aussi peut-être la périodicité, le choix de périodicité de parution de la revue tous les ans, parce qu'il y a quand même un gros travail de recherche qui est mené tout au long de l'année, en fait.
Hein. Oui, il y a un gros travail, et bon, voilà, on est modeste, on se dit, une fois par an, c'est bien, vaut mieux sortir quelque chose de qualité une seule fois par an, plutôt que s'imposer des délais très courts et puis bon qu'on ne pourra pas tenir quoi. Oui, c'est un énorme travail, d'autant plus que le comité de rédaction s'est fixé comme but d'essayer de pas reparler de choses qui sont déjà parues, soit dans la presse, soit dans des livres d'histoire locale. Voilà, essayer de trouver des événements un petit peu pas inconnus, mais un peu méconnus, quoi.
Alors, c'est pour ça qu'on trouve, par exemple, des arrêtés municipaux sur tout ce qui pouvait être interdit à Millau au 19e siècle.
Oui, voilà. Oui, ça, c'est assez drôle. Bon, on va voir. Bon, il y a des choses très sérieuses, et puis, bon, il y a des choses qui font sourire.
Oui, le fait que les Millavois et les Millavoises ne pouvaient pas se baigner au même endroit, par exemple.
Voilà. Oui, donc, le titre, au 19e siècle, il n'était pas interdit d'interdire. Alors, c'est vrai que j'ai envie de commencer par la fin, justement toutes ces interdictions qui peuvent être même assez futiles. Enfin, il est interdit de lancer des boules de neige.
Depuis 1864.
Alors, est-ce qu'il a été révoqué cet arrêt?
Ah ben ça, je sais pas. Je sais pas, mais bon, vaut mieux que les Millavois se tiennent à carreau. Et...
Bon, il n'y a plus trop de neige maintenant. Mais... Oui.
Alors, c'est vrai que ça concernait. Il y avait aussi toujours derrière l'ordre moral Mais pas seulement, enfin, ce qui concernait aussi le divertissement, les loisirs, il est interdit de chanter après 9h du soir, tout ça pour ne pas déranger la bourgeoisie.
Et certaines chansons dans les cabarets aussi, hein, aussi
oui. Hein, pas n'importe quelle chanson. Qui étaient trop licencieuses, voilà. Et on voit aussi, donc, au fil du temps, l'opposition qui perdure entre justement cette morale bourgeoise, religieuse, et un côté plus progressiste qui est parfois d'ailleurs incarné par des représentants en fait, de l'État, souvent.
Oui, tout à fait. Bah, bon, faut dire aussi qu'à cette époque, le pouvoir de l'Église est quand même important, pouvoir aussi sur les consciences, hein, et voilà. Et donc, les instances républicaines, le préfet, sous-préfet, du coup, ils apparaissent un peu comme des progressistes, effectivement, oui.
Oui. Et c'est quelque chose qui perdure même, y compris après la loi de séparation, c'est-à-dire au-delà de 1905.
Hein. Oui, tout à fait, oui.
Oui, avec, on voit ça dans l'article, par exemple, sur l'affaire. Alors, je ne sais plus.
L'affaire Donna.
Voilà, l'affaire Donna. Ce sont deux instituteurs qui ont été lynchés, en fait. Assassinés.
Bon, heureusement, ils n'ont pas été assassinés, mais enfin, il y a eu tentative, hein, quand même. Oui. Hein, heureusement que. On a tiré de nuit en direction de leur fenêtre. Les projectiles ont atteint le plafond, mais ils auraient été près de la fenêtre à ce moment-là. Oui, ils pouvaient être. Tout à fait. Et alors, ce climat de haine est consécutif à toute cette période. On est en 1912, donc pas très loin de 1905, c'est-à-dire l'année de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et il y a un climat très très tendu entre cléricaux et anticléricaux. Et les écoles publiques sont considérées par l'Église et puis par une grande partie de la population dans les villages comme étant l'école du diable. Hein, c'est ça, on trouve ça. Enfin, voilà, l'école du diable, l'école publique, c'est l'école du diable face à l'école libre. Et il y a des prêtres en chair qui appellent leurs ouailles à retirer leurs enfants de ces écoles, notamment parce que les manuels ne sont pas conformes à la bonne morale. Et alors là, on s'aperçoit que finalement...
on voit justement le conflit sur la lecture de l'histoire, entre autres.
Complètement, ouais, complètement, voilà. Là, on peut tout à fait faire des parallèles avec aujourd'hui.
Oui, alors vous rendez aussi hommage dans la revue à un personnage espagnol qui est très peu connu, un anarchiste espagnol, Francisco Ferrer.
Y Guardia.
Voilà, et donc il y a une rue Ferrer à Millau, et c'est certain que beaucoup de gens ignorent les raisons du nom que porte cette rue. En fait.
Oui, certainement que certains touristes ont dû dire, tiens, Nino Ferrer a une rue à Millau, David Ferrer.
Ou Casimir Ferrer.
Oui, mais non,
c'est vrai que c'est un nom catalan qui est assez répandu en Catalogne, Ferrer, en fait.
Oui. Ouais. Et donc, justement, les membres de l'association pour la promotion de l'histoire l'histoire sociale millavoise, on menait un combat pour que parce qu'il y a une plaque à l'entrée de la rue et à l'autre bout de la rue, c'est une toute petite rue, hein, et il y avait juste la rue Ferrer, c'est tout. Et donc ils ont insisté auprès de l'ancienne municipalité pour que malheureusement c'est pas les deux plaques, mais il y a au moins une plaque où on dit qui était Francisco Ferrer, c'est-à-dire que c'était un militant anarchiste, pédagogue, et qui a été assassiné par le pouvoir espagnol de l'époque.
Oui. Et alors, il est mentionné dans le récent documentaire qu'a fait Tancrède Ramonet sur les anarchistes, et ce qui est quand on lit en fait finalement ce qu'ils proposaient en matière d'éducation, et quand on voit l'opposition que ça a suscité allant jusqu'à son assassinat, on se dit quand même, c'est parce que finalement ce qu'ils proposaient c'était pas très loin de ce qu'a fait Célestin Freinet par exemple. Mais
complètement, ou les écoles Montessori, oui tout ça, il est à l'initiative de tout ça, effectivement, oui. Et on comprend que pour le pouvoir espagnol et l'Église espagnole, forcément que c'était très 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 dangereux, vous vous rendez compte, ils prônaient la mixité dans les écoles, enfin c'était pas pensable.
Voilà, il faut rappeler effectivement que c'était au début du
oui.
20e siècle.
Oui, oui.
Voilà.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et on s'est rappelé à la fin de la revue, vous prenez l'écriture collective. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la recherche est collective. En ce qui s'agit des thèmes choisis, est-ce que tout ça, c'est collectif aussi? Oui. Comment ça se passe, la méthode, en fait?
Ah oui, bien sûr. Bah, on a des réunions tout au cours de l'année et on discute qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme sujet, tout ça. Et bien sûr qu'il peut y avoir des sujets qui peuvent être écartés. On dira, bah non, ça on en parlera plus tard parce qu'on fera peut-être un numéro spécial là-dessus. Mais bien sûr, voilà, c'est la décision, elle est collégiale. Oui.
Et l'écriture aussi?
En général, c'est une personne qui écrit un article en particulier.
D'après ses recherches.
Voilà, d'après ses recherches. Alors les recherches, elles peuvent être faites collectivement, et puis après on dit tiens, bah ça pourrait t'intéresser pour ton article, ça. Bon, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile d'écrire un article.
Bien sûr. C'est compliqué, oui. En revanche, donc, vous avez fait le choix de ne pas signer les articles,
oui.
Plutôt que ce soit l'ensemble de l'association qui publie le travail.
C'est un ouvrage collectif.
De vos travaux, oui, absolument. En tout cas, on vous remercie vraiment, puisqu'on a pu bénéficier en avant-première de la sortie de ce troisième numéro.
Qui sort sinon mardi.
Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est important, ce qu'il faut dire à nos auditeurs. Voilà, date de sortie le 1er mai, donc ça veut dire que vous pourrez le trouver en librairie dès mardi.
Oui, et le jour du 1er mai, les Millavois pourront le trouver, puisqu'on sera présent place de la Capelle à 10h30, avec une petite table, donc ils pourront le trouver à cet endroit et à cette heure-là.
Alors, est-ce que vous... Bon, le numéro 3 sort. Est-ce que ça veut dire que, déjà, vous avez en tête des choses pour le numéro 4 ?
Oui, on a des choses. Oui, on a des choses. Je pense que ce sera un numéro qui sera orienté vraiment sur la ganterie,
sur le travail de
la peau, du cuir...
D'accord. On va vous laisser travailler tranquillement à ce quatrième numéro. Le 3 vient de sortir. Toutes les bonnes librairies pourraient vous procurer ce nouveau numéro de La Main Chaude. Et puis évidemment, donc, comme le rappelait Daniel, à partir du 1er mai, donc pour ceux qui seront là sur place. Merci encore d'être venu jusqu'à la caravane de Radio Larzac pour nous parler de cette revue.
Merci à vous.
Merci.